I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 110 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, UFC 295 au Madison Square Garden de New York City. On va revoir ensemble la main card de fou. Hein. Clairement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une carte aussi intense, aussi rapide, aussi express, aussi violente, aussi satisfaisante. Je veux dire, les superlatifs ne manqueront au final hein, pour décrire cette carte qui était jouissive, plus que jouissive. Hein. Vraiment, si vous vouliez faire découvrir le MMA à vos amis, ou alors si vous n'avez pas vu des combats depuis longtemps avec votre cercle qui n'est pas forcément des plus passionnés par le MMA, c'était vraiment le moment de les mettre devant l'écran et puis de les faire kiffer. C'est ce qui est arrivé à moi et à un de mes amis. Franchement, c'était parfait. J'ai halluciné. Sur le fait que ça se déroule comme ça. Après, c'est clair que sur le papier, on avait le matériel, on avait la possibilité, on avait les fighters avaient clairement les ambitions pour pouvoir nous livrer une carte de cet acabit. C'était complètement débile. À quel point cette carte était jouissive. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de rentrer directement dans le feu de l'action avec ce premier combat hein, entre Pat Sabatini et Diego Lopez, hein, l'homme au mulet le plus lisse de l'histoire du MMA. Ever. Le Brésilien, Lopez, qui a gagné une grosse fanbase, hein, je pense, hein, clairement, depuis son premier combat au UFC. En short notice face à au monstre qui est Movsar Efloef, le gros contender des featherweight, et le Brésilien qui était passé proche d'une victoire, qui s'était très bien défendu, qui avait fait des belles tentatives de soumission, etc. Puis lui qui avait fini aussi son dernier combat, et là il se retrouvait face à un beau morceau qui est Pat Sabatini, lui qui aussi hein, est capable de nous montrer de très belles choses au sol. Premier round, c'est Sabatini qui avance sur une combi en 1-2-3 et directement sur le troisième, hein, connecte Lopez qui s'en prend une pleine poire, mais qui n'a pas bronché. Hein. Clairement, il a mangé, il a reculé pour mieux calculer sa distance. Et c'est lui, par contre, qui est reparti en avançant, qui a poussé Sabatini contre la grille. Il a bien stuffé les tentatives de takedown de Sabatini, hein, la première, la deuxième. La deuxième fois, bon, bah, là, on est parti plus dans le clinch et c'est Sabatini qui est descendu vraiment bas dans les jambes de Lopez. Et Lopez l'a renversé vraiment, vraiment bien. Hein. Il avait le double underhook, hein, le double bras en dessous pour pouvoir sweeper son adversaire. Sabatini s'est relevé un peu en catastrophe et puis dans le procédé, en a mangé une. Dans le clinch, j'avais trouvé aussi que Lopez, même si c'était une très courte séquence de clinch, Lynch a lancé le genou absolument quand il fallait. Hein. Celui-là, il a fait mal aussi dans le torse. Cela font très mal. Et après, Sabatini s'est fait connecter avec une droite. Et dans le procédé, quand il s'est relevé, bon, mais il en a repris une derrière pleine face. Et puis là, il a commencé à vraiment tomber contre la grille. Et puis là, c'était le début de la fin. Diego Lopez a juste eu à finir. Et premier combat qui se finit en 90 secondes. Pas grand-chose à dire à part que Diego Lopez gagne encore une fois de très beaux points. Il a montré l'étendue de son talent, qu'il avait aussi du power dans les mains, excusez-moi, et qui était capable de finir un adversaire, je veux dire. On l'a vu contre Evloev qu'il était très bon au sol, on le savait avant qu'il arrive en short notice. Il avait une réputation d'être un bon grappleur et puis bon, dans son dernier combat face à Davin Tucker, il l'a aussi terminé en 90 secondes avec un armbar au premier round. Et là, premier round, 90 secondes, Pat Sabatini qui est quand même un adversaire de bon niveau et qui était la bonne étape à franchir après Gavin Tucker. Je pense que le matchmaking était très bon pour le Brésilien. Et il nous termine ça en 1 minute 30 avec des points de feu. Mais Diego Lopez, c'est de très bonnes nouvelles pour la suite, pour lui, pour nous les fans aussi. C'est le gars aussi, j'ai l'impression qu'il peut se battre souvent. En plus, dernier combat, 1 minute 30, je veux dire, il devrait se battre au premier trimestre en 2024. Et je pense qu'il faut aussi continuer à vraiment alimenter cette hype. Et lui, il doit continuer aussi, même si il a un peu cette, pas cette dégaine, mais son attitude, hein, parce que sa dégaine, c'est pas timide, hein, avec cette coupe de cheveux-là, on peut pas dire que t'as une dégaine de timide. Faut l'assumer quand même, mais il l'assume, de un, et de deux, son charisme, je pense, fait un bon travail pour le vendre aussi. Après, dans la cage, évidemment, bah là, on n'a rien à redire, hein, sur les deux derniers combats, c'est clair et net. Moi, j'aimerais bien le revoir assez vite. Et puis, encore une fois, enfin, je pense pas de Sabatini. Et un peu dans le même peloton que les Lucas Almeida, Jack Shore, Josh Koulibao, Charles Jourdain, etc. Je veux dire, il y a quand même du très bon monde, hein, chez les featherweight. Une fois que vous passez le classement, André Fili, Jonathan Pierce, y a quand même des gars qui ont bien enchaîné les victoires, et il y a du matériel qui attend Diego Lopez. Genre, y a plein de noms. Y en a énormément qui feraient du sens pour lui. Moi, je pense que faut pas brûler les étapes non plus, hein, parce que il a 28 ans, il est encore jeune, et bon, sa première défaite face à Movsar Eslohes, c'est une fausse défaite, j'ai envie de dire, hein, vu que je pense qu'il a gagné énormément après ce combat. Maintenant, il faut juste continuer dans ce sens-là, et puis espérer que ça marche bien. Alors clairement, comme on l'a vu dans les autres combats déjà, il y a quand même un petit peu de travail à faire sur le stand-up, hein. C'est clair que au niveau du composure et pas forcément des déplacements, mais de la fluidité des combinaisons, et de mélanger tout ça ensemble avec son MMA, il y a encore du progrès à faire, mais il a 28 ans. Et puis bon, déjà ce qu'il a montré, on sait qu'il est capable de gagner et de faire des bons combats, mais plus il va avancer dans le classement, évidemment, plus ça va être compliqué face à des adversaires qui sont très well-rounded. Donc vivement la suite pour Diego Lopez, et bravo à la crinière la plus lisse de l'histoire du MMA. Et quel enchaînement pour la suite de cette carte, avec le combat entre Benoît Saint-Denis et Matt Frevola. Encore une folie, hein, ce petit combat. Bah, petit combat, pas dans le sens du combat en lui-même, mais de la durée du combat, évidemment, parce je crois qu'on a encore eu quelque chose comme 90 secondes. Combat qui faisait énormément de sens pour les deux, hein, compte tenu du fait que Benoît Saint-Denis avait battu Thiago Moïse, qui était genre 14 ou 15, il me semble, à l'époque, à UFC Paris. Et Matt Frevola, lui, était sur une belle série de victoires. Je crois qu'il était 13 ou 14 en rentrant dans le ring au MSG. Et évidemment, énorme opportunité pour Benoît Saint-Denis de se battre à New York, au Madison Square Garden, sur la main card. Enfin, je veux dire, c'est que du bonheur, clairement, pour Saint-Denis. Un énorme, énorme combat. Clairement le plus gros de sa carrière, hein. Avant ça, c'était celui contre Thiago Moïse, et puis il a passé l'exercice avec brio. Et là, il a encore une fois, mais clairement confirmé son statut de très gros contender chez les lightweight. Et ce que j'ai beaucoup aimé de sa perf aussi, c'est que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a mené la danse, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui a envoyé le plus lourd dès le début, hein. Il envoie des gros premiers kicks avec des jambes arrière, et je trouve qu'il connecte très bien au niveau de la distance. Après, c'est sûr qu'il les envoie au niveau du corps, etc. Mais évidemment, vous connaissez la suite, ça a été très bien aussi préparé. C'est lui qui veut le milieu de l'octagone, c'est lui qui veut pousser contre la grille, et c'est lui qui envoie plus de jambes arrière. Le premier kick qui équilibrera Steam Roller nous amènera vers une séquence qui, moi, m'a fait questionner le choix de Benoît Saint-Denis, mais j'ai eu ô combien tort de questionner ce choix de Saint-Denis, parce que Benoît a eu confiance en sa game sur son dos, hein. Quand Steam Roller a commencé à se relever, Saint-Denis a fait ce qu'il fallait, puis il est parti sur ce headlock, et Steam Roller a continué à se relever. Évidemment, vous ne voulez pas rester sur vos genoux et sur vos quatre points pour pouvoir éviter de se faire attaquer. Donc, il a continué à se relever. Et là, Benoît Saint-Denis, qui avait pas vraiment cette guillotine si bien loquée que ça, a jumpé cette guillotine. Choix qui me paraissait peu judicieux, mais aucune difficulté déjà pour Steam Roller à sortir sa tête à ce moment-là. Donc, encore une fois, ça m'inquiétait dans le sens où pourquoi BSD a fait ça, mais la façon dont il a sweepé derrière Steam Roller, ça m'a vraiment rassuré, hein. C'est-à-dire qu'il allait chercher sa moitié de papillon, juste un papillon, un hook à l'intérieur de la cuisse de Steamroller. Et il l'a renversé comme pour rire, quoi. Enfin, c'était l'open mat du dimanche matin pour BSD avec Steamrolla, qui est un classé chez les lightweights. C'était d'une étonnante facilité. Vraiment, je voyais les séquences de sol de BSD. Bon, on l'a vu contre Thiago Moïse, qui était très bon dans la lutte et très bon pour le wrestle-up et très bon au sol. Et on le voit dans ses vidéos où il s'entraîne en camp avec Warren, son entraîneur, et puis ses partenaires d'entraînement, que c'est une brute au niveau du sol. Pas forcément au jiu-jitsu pur, mais au niveau du sol, c'est une brute hein, pour les sweeps, etc. Et là, on l'a vu clairement avec Rolla. J'ai été impressionné de la facilité, de l'aisance de BSD, encore une fois. Par contre, il faut aussi souligner la résilience de Steamrolla, qui n'est pas là pour rien, hein, qui a quand même une belle aussi expérience chez les lightweight et au niveau dans le UFC, qui, quand s'est relevé, a réussi à aller chercher un takedown sur BSD, qui s'est retrouvé au sol. Mais encore une fois, BSD est à l'aise de son dos, ou alors sait quand il doit se relever, et sait se relever. Et c'est ce qu'il a fait, il a chassé direct Rolla, qui lui s'est déplacé latéralement contre la grille, malheureusement pour l'Amérique. Les mains un peu trop basses et mauvais calcul de la distance. Et puis BSD, lui, avec tous les kicks qu'il avait envoyés, bah, il avait une bonne idée de au moment où il pouvait connecter, au moment où il pouvait faire mal. Et même s'il a tapé le haut du crâne de Steamrolla avec son pied, ça aurait été mieux avec le tibia. Mais encore une fois, avec le pied, ça peut marcher. Hein. Si vous passez un bon kick, vous le passez dans la tempe ou alors dans la mâchoire, ou là, encore une fois, même dans le haut du crâne, mais là, ça a été ding-dong pour Steamrolla, qui s'est retrouvé au sol, et BSD a pu finir facilement derrière. KO au bout, encore une fois, quelque chose comme 90 secondes, il me semble. Incroyable de la part de BSD. Vraiment, performance sans fioriture. Hein. Comme vraiment ce moment où il y a eu le jump de la guillotine, et puis j'ai douté. Ben, le fait qu'ils disent j'ai confiance en mon sol pour aller se faire ce genre de truc là et dire ah ben, au pire si ça marche pas, je suis à l'aise sur mon dos et je vais réussir à sweeper mon adversaire derrière, ou alors peut-être autre chose, who knows, peut-être la prochaine fois on verra BSD travailler ses soumissions depuis le dos, on sait pas. Franchement, le mec peut progresser encore et encore et encore. Il a commencé le MMA genre pro, ou alors même le MMA tout court, non, le MMA pro, premier combat en 2019, et je crois il a quelque chose comme 7 ans de MMA. C'est assez hallucinant à quel point le gars a progressé vite. Alors clairement, c'est un acharné de travail, hein. Ça, c'est pour arriver aussi vite à ce niveau-là, avec une telle base. Alors certes, il y a toujours... bon, là, on l'a moins vu parce que le combat n'a pas été très long, mais il y a toujours le côté God of War, brawl, et un petit peu peut-être sale dans les échanges, dans la poche avec Saint-Denis. Mais ça, clairement, ça va s'effacer doucement. Hein. Et petit à petit, on le voit sur les combats que je pense que, clairement, son entraîneur travaille très fort à ce qu'on s'éloigne de ce modèle de combattant-là et qu'on arrive quelque chose de quelque chose de plus complet, pro-discipliné. Cette performance en est une bonne attestation. Voilà, c'est très belle perf pour BSD qui KO le local chez lui, devant le MSG plein. Deuxième combat de la main card, voilà, c'est gros statement, et la soirée aurait pu être parfaite pour BSD, qui répond à la première question de Joe Rogan avec un speech qu'il a clairement travaillé avant et qui est livré dans un anglais impeccable. Mais par la suite, Benoît s'est un peu perdu dans les noms, malheureusement, avec les questions de Rogan sur qui est-ce que tu veux voir derrière. Et puis bon, quand tu cites plusieurs noms avec un anglais qui n'était pas aussi parfait que dans ton speech, et puis je veux absolument pas mettre en doute l'anglais de Benoît sur la deuxième réponse, qui est plus improvisée, évidemment, parce que il faut essayer, hein, quand c'est pas ta première, ta deuxième, ou alors que c'est ta deuxième langue que tu maîtrises vraiment, ou ta première langue, mais il faut absolument pas désencourager les gens, quoi. C'est il a essayé, il a eu raison, il a répondu. Et malheureusement, le sens et les connexions ne sont pas vraiment faits dans ces phrases, dans ces noms, dans la construction de ces phrases. Et puis, ça finit un peu en queue de poisson. On ne sait pas trop qui veut call out à la fin, ou du moins, les Américains ne comprendront pas vraiment. Ce speech passera peut-être à travers les esprits. Dans le sens où, qui va le call out, ou qui sera le prochain pour lui, etc. C'est devenu un peu confus, mais je pense qu'il est aux portes du top 10 maintenant, et que y a du beau pour lui derrière, hein. C'est clair et net, c'est bordel un peu chez les lightweight, mais il y a du beau, hein. Après, il parlait de Gamrot en main event en Europe, oui, ça peut être sympa, clairement, Ça fait longtemps que le UFC est pas retourné en Pologne, en plus, me semble-t-il. Hein, pourquoi on ne mettrait pas un petit Carolina et puis un petit Gamrot et un Mateusz Rebecki aussi, hein, qui a gagné encore une fois de façon expéditive, lui, dans les prélims. Je veux dire, il y a quelque chose qui pourrait se filer. Hein? Voilà. Je suis aussi matchmaker à temps partiel. Voilà. Hein, mais évidemment, ce ne sont que des rêves et des opinions purement personnelles. Je ne prends pas d'argent. Voilà, c'est gratuit. Passons au combat suivant entre Jessica Andrade face à Mackenzie Dern. Ah, ce combat. Malgré tout, belle perf de la part de Andrade. Clairement, faut le dire tout de suite parce que elle qui était, il me semble, sur 3 défaites d'affilée avec des sales défaites en plus. Hein, elle avait besoin de rebondir. Elle a aussi besoin, malheureusement, de travailler une des jobs les plus difficiles au monde, à savoir fighter. Devoir retourner dans la cage pour payer ses papiers de divorce et les frais d'avocat, etc. C'est dur, hein, mais ouais, hein, tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a besoin tout le monde a besoin d'argent et tout le monde a des galères. Jessica Andrade en est un bon exemple puisque, comme je vous le dis, trois défaites d'affilée, des petits problèmes, des petits pépins dans la vie qui sont galères, des problèmes financiers par-dessus tout ça, etc. Et un beau retour pour elle, Mackenzie Dern, elle qui était j'ai envie de vous dire, malgré tout, une contender chez les strawweight. Je crois qu'elle était 7e en rentrant dans la cage, quelque chose comme ça. Elle est retombée dans ses travers, mais d'une façon catastrophique. Moi, je l'ai trouvée très nerveuse avec ses mains, même dans le début du premier round. Elle tournait latéralement toujours autour d'Andrade en essayant de trouver des angles pour aller chercher des attaques en ligne, au final. C'était sa seule façon de chercher les angles, c'était pas forcément avec des déplacements vraiment avancés, on va dire. Hein. C'était vraiment genre latéral droite ou latéral gauche, et après j'essaye de couper ses angles pour aller chercher des angles différents, mais toujours avec des attaques en ligne, et puis surtout des combinaisons bien trop approximatives avec le menton en avant. Andrade a pendant un moment peiné à connecter parce qu'elle essayait d'avancer un petit peu sur Dern, donc au final elle a préféré rester sur ses appuis et gérer les counters. Dern est bien trop réactive sur tous les coups qui sont lancés par Andrade, et puis il y a zéro feinte, hein, de la part de Dern, aucun changement de niveau, rien du tout, vraiment avancé, menton en avant. Andrade, elle taffe tranquille des inside leg kicks et des low kicks. Tout le long du combat d'ailleurs, ça a été pas mal de la part de la brésilienne. Mackenzie Dern est incapable de pousser contre la grille de façon ordonnée. Elle se fait connecter à chaque fois qu'elle finit ses combinaisons bien trop longues. Elle se perd complètement. Andrade attend juste de la dégommer dans les counters. Dern, c'est un petit peu le poisson qui continue de mordre l'hameçon. Hein. Tu l'attrapes, tu le relâches et elle va retourner mordre. Pour quelle raison? Parce qu'elle n'a pas cet instinct de survie. Hein. Juste vraiment à la guerre, à la guerre, à la guerre. Et puis on verra bien ce qui se passe. Mais tu le sais très bien que tu vas te faire connecter. La façon dont tu avances, la garde que tu gardes, le déplacement de ta tête qui est quasiment nul, je veux dire, ça va mal se finir. Hein. Quand c'est Andrade qui pousse contre la grille, Dern est clairement une proie, aucune garde. Ça ressemble un peu à du kung-fu avec les mains, limite, quoi. Genre, c'est dur, très très dur au niveau du striking pour Dern. C'était bien parti pourtant dans le round 1 où elle avait réussi son premier takedown. Et puis dans le deuxième round, les takedowns partiront de plus en plus loin. Elles seront de plus en plus désespérées. Pourtant, Dern qui arrive à connecter au début du round 2 avec des simples jabs. Hein, si, puisqu'elle attaque toujours en ligne, elle aurait dû vraiment s'arrêter juste à des jabs et à des 1-2. Hein, et puis après, elle est peut-être allée chercher du grappling. Construire du grappling autour de ça, changer un peu les niveaux, etc. Mais la façon dont elle s'est battue, ça allait clairement pas aller dans son sens. Pas de discipline, pas de simplicité, des takedowns de trop loin, alors que Andrade, elle travaille toujours les low kicks, et Dern continue encore d'avancer avec le menton en avant. Elle se fait clairement dropper une fois, deux fois, trois fois. Hein. On a eu trois séquences où Dern se fait dropper. Alors évidemment, elle reste sur son dos, mais Andrade ne veut pas manger de ce pain-là. Hein. On demande à Mackenzie Dern de se relever. Des échanges violents, hein. Même si Andrade en a mangé une ou deux, c'est pas un problème pour elle parce que c'est toujours Andrade qui aura le dernier mot sur le dernier counter. Et puis bon, Dern se fait dropper une, deux, trois fois. La troisième fois, l'arbitre arrête. C'est la catastrophe ce deuxième round. Pour Dern, on partait sur un 18 ou un 17, limite j'ai envie de vous dire, mais bon, on était bien avec un arrêt de combat parce que c'était vraiment pas le jour pour Mackenzie Dern. Est-ce que c'est Est-ce que c'est l'orga pour Mackenzie Dern? Est-ce que je sais pas. J'ai l'impression que on revoit des combats d'elle. Oh, elle s'améliore un peu dans cet aspect-là. Et puis au final, ah bah non, elle a déjà atteint son plafond de verre. C'est un peu les montagnes russes, mais médiocres avec Mackenzie Dern. On remonte un petit peu, mais on redescend vite. C'est un pas en avant, trois pas en arrière. C'est compliqué pour elle. Et puis, c'est dur quand même parce que elle est ultra douée en sol, en JJB. Et puis, clairement, elle avait les armes pour pouvoir aller loin dans cette division si elle arrivait à mettre tout ça ensemble. Mais ce combat est un énième rappel sur ses carences en MMA en général. Et puis, on a envie de dire que ça ira pas plus loin, quoi, pour Dern. Là, ça y est, là, je pense que. C'est un peu le point final sur la possible avancée vers, on va dire, du top 3 enfin voilà, mettez Dern contre Zhang Weili, quoi. Non, 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 ça va pas aller, clairement. Mais bon, elle a le droit de se battre, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a le droit de continuer. Pour Jessica Andrade, c'est un très beau rebond. Bravo à la Brésilienne. Ouais, elle est toujours là, Mini Tank, toujours là. On peut avancer sur le co-main event de la soirée qui devait à la base être le main event. Hein. On devait avoir Jon Jones versus Stipe Miocic. Hein. On n'y croyait plus à ce Jon Jones versus Miocic. On n'y croyait déjà plus il y a plusieurs années et on n'en voulait pas forcément. Mais il faut penser à Miocic hein, quand même. Le gars a attendu et attendu et attendu. Et puis, bon, bah, on lui donne finalement une option d'aller chercher au moins un dernier combat. Et puis, au final, cette option bah, lui file sous le nez avec un Jon Jones qui se retrouve avec une sale blessure qui va l'éloigner des mats pendant nombreux mois pardon, et de longs mois, surtout pour Stipe Miocic qui. Bah, qui est dans la merde, hein, clairement, parce que même si Dana White dit non, non, mais on veut toujours faire ce combat et on fait un titre intérimaire entre Aspinall et Pavlovich, on s'en fout de la ceinture intérimaire, hein, clairement. Hein, c'est qui gagnait aller se battre contre le champion pour la ceinture. Hein, c'était surtout ça l'enjeu du combat. Mais pour revenir à Miocic, je trouve que c'est terrible pour lui. Terrible. Très compliqué pour la suite. Et ça met encore plus en jeopardie sa possibilité de combattre une dernière fois. Je veux dire, à quel âge il va se battre? Genre 42, 43? Je sais qu'on a eu Glover hein, qui était champion à cet âge-là, mais le ring rust de Miocic va être catastrophique, hein, cataclysmique. C'est chaud pour lui. Si j'en parle, c'est parce que je veux pas qu'on oublie un minimum de respect pour le gars qui a été ben, quand même le meilleur heavyweight du UFC. Peut-être ever, mais en tout cas, un des plus gros, quoi. Et le fait qu'il soit genre, vraiment traité comme ça, c'est douloureux. C'est douloureux, ça fait peine à voir pour l'Américain. Et puis la poisse, la malchance qui s'ajoute par-dessus ça, ça fait chier pour lui. Alors revenons au combat entre Pavlovich et Thomas Spinal. Clairement, bah, combat de ouf, hein, parce que bah, Pavlovich, même si je trouve on n'a jamais vu au final s'il avait vraiment un MMA si bon que ça, tandis que Aspinall, lui, bah, c'est plus le heavyweight moderne, hein, avec un MMA qui est vraiment assez complet, un gars qui sait un peu tout faire, etc., et qui s'est tapé une sale blessure contre Curtis Blaydes, hein, qui lui a valu une défaite au final, mais. Qui n'en est pas vraiment une pour Aspinall, même parce que la durée du combat déjà était quasi nulle, et on n'a pas vu assez pour juger, mais bon, quand Aspinall est revenu, il a gagné, et puis là, eh ben, c'était le gros test, méga test, pour savoir si ben, Aspinall avait cette carrure de champion, ou la même pour Pavlovich, hein, clairement, a-t-il la carrure du champion ou non, et les deux, entre les deux, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de temps d'octagone en tout dans le UFC, et puis on partait sur 5 rounds, mais ça puait le fait que ça ne soit pas 5 rounds, et évidemment, hein, ça s'est terminé sur un round. Aspinall lance le premier low kick. J'ai beaucoup aimé les low kicks de Aspinall, hein. Lui aussi, je pense qu'il les a utilisés un peu pour jauger la distance. Il a lancé des feintes aussi. Il a bien testé Pavlovich, a changé les niveaux. Pavlovich en a mangé quelques feintes. Hein. Il les avalait bien. Attention par contre à Pavlovich qui a connecté direct. Hein. Alors lui, c'est vraiment avancé en ligne avec des grosses patates. Ça, il sait le faire. Pousser un peu contre la grille, bloquer son adversaire et puis avoir le point qui fait très mal. Ça, Pavlovich. Pavlovic est très bon. Et à Spinal, on a mangé une sur la troisième, sur un 2-3 pendant que Pavlovic avançait. À Spinal, on a mangé une, mais voilà, il a un chin et il l'a bien géré. Puis après, je pense que ça aussi, ça l'a aidé pour mieux gérer la distance, hein, et savoir où se mettre et savoir comment son adversaire allait gérer. Les kicks marchent toujours bien de la part d'Aspinall pour contrôler des bons déplacements latéraux, pour essayer d'aller chercher des angles et casser le rythme un peu de Pavlovic et ouvrir des angles. Et puis quand il a réussi à ouvrir un petit peu cet angle, que Pavlovic s'est retrouvé un petit peu de travers, il a balancé ce 1-2. Le deuxième, c'est-à-dire sa main arrière qui est arrivée sur la tempe de Pavlovic et qui directement a fait très mal aux Russes. Et derrière, il a pu continuer. Et avec un crochet du gauche qui est venu taper le haut du crâne de Pavlovic, ça a été vraiment le coup qui termine le Russe. Derrière, il y a eu trois coups de Grand Endpan, il me semble, dans pleine poire. Enfin bref, c'était terminé. Victoire expéditive de Thomas Spinal qui a montré que c'était un chef, un vrai heavyweight avec une trempe de champion. Rien à rajouter. Rien à rajouter, je vous dis, les déplacements, moi j'ai beaucoup aimé les déplacements latéraux, les feintes, essayer d'aller jauger Pavlovic, de le faire répondre, de l'avoir vraiment réactif par rapport à des feintes, et puis voir comment il réagit, puis adapter son striking derrière pour aller chercher un coup qui fait très mal direct. Après, on est chez les heavyweight, hein, donc tous les coups peuvent faire mal. Dès qu'il est lancé avec une vraie puissance, c'est le coup qui peut terminer le combat, et ça a été le cas avec Aspinall. Bravo à l'anglais, franchement, moi j'adore ces histoires où le gars se fait vraiment, vraiment mal, hein. Il s'est fait les croisés, enfin voilà, déchirure complète, hein, d'un ligament de genou, avec évidemment l'opération, le rehab derrière, éloigné des mats pendant longtemps. Le gars qui revient, il regagne son combat derrière, et là il gagne contre Pavlovic. Enfin, c'est beau, c'est très beau. Quelle abnégation, quelle résistance et quelle relance de la part de Aspinall, franchement. Même s'il y a une ceinture en carton derrière, enfin, on s'en fout un peu de la ceinture. Je vous dis vraiment, c'était aller battre vraiment le boogeyman, hein, russe, hein, Pavlovic, qui fait très peur avec une grosse puissance de knockout. Il a réussi à le terminer très vite. Il prend pas de dégâts. Ça part très vite, évidemment. Bon, hein, c'est le bordel chez les heavyweight avec cette blessure de John Jones. Donc, on peut pas dire, ah ouais, bon, ben, il peut retourner dans le ring direct et tout. Non. Là, maintenant, c'est le jeu, c'est le waiting game, comme disent les anglophones. Il va falloir attendre. Et surtout, envoyer paître Cyril Gane, hein, comme il l'a fait, parce que alors là, ça c'est mon carton jaune du jour. Voilà, on va donner des petits cartons. Ça faisait longtemps que je n'avais pas donné. Et là, j'en donnais un à Cyril Gane qui. Qui a voulu faire un petit peu le chef après avoir battu Sergei Spivak, hein, au UFC Paris, à ne pas profiter de la présence d'Aspinall pour aller faire ce combat, ce title eliminator, hein, pour aller chercher le titre. Voilà, il n'a pas voulu de ça à Paris. Il a double down derrière dans les interviews, et puis là c'est bizarre, là il veut bien se battre contre Aspinall, mais Aspinall l'a envoyé chier, quoi, évidemment qu'il l'a envoyé chier. Dans quel univers Aspinall aujourd'hui accepterait un combat contre Gane, alors que Gane l'a snobé comme un mal propre à UFC Paris? Mais il a bien raison de l'envoyer chier, quoi. Vraiment, Gane, là, pour le coup, il aurait mieux fait de rien dire. Après, genre, qui ne tente rien à rien, etc. Peut-être. Mais c'était cette mauvaise idée, voilà. Mauvaise idée, et puis cette idée lui est revenue plein de face, hein. Maintenant, il se retrouve soit face à Pavlovic, qui vient de perdre, soit face à Jalton Almeida, bon, hein, qui n'a pas réussi à finir Cyril Gane 5 rounds au-dessus apparemment. J'ai pas vu le combat, mais bon, c'est quand même un combat bourbier, hein, j'ai envie de vous dire, Almeida. C'est chaud pour Gane, et je suis vraiment pas dans le délire I told you so, mais là, c'est quand même mérité. Enfin, je veux dire, c'est mérité de se faire envoyer paître par Aspinall après avoir tweeté bravo, je veux bien me battre contre toi. Non. Maintenant, moi déjà, je suis en ligne, hein, pour attendre John Jones ou peu importe qui est le prochain, et je vais attendre. Mais tu veux jumper la ligne et puis. Non. Toi, t'es encore plus en ligne derrière, man, derrière moi. Bravo Aspinall, beau parcours. Belle remontée après cette blessure, et puis chaos spectaculaire, enfin voilà, co-main, parfait pour l'anglais qui est jeune. C'est cool pour lui. Voilà, on aime ça. Bravo Aspinall. Bon, on peut passer à ce main event, hein, qui lui aussi sentait le combat qui allait se terminer dans les trois premiers rounds. Et puis on y a eu droit. On y a eu droit sans surprise, hein, parce que, écoutez, Poitain, hein, quand même, Alex Pereira qui a du finish dévastateur dans les mains, et puis Jiri en face qui a un style vraiment, vraiment bizarre, hein, vraiment samouraï, ninja, homme de grotte. Et puis, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il n'y en ait pas un des deux qui se fasse finir, quoi. Et ça a été intéressant. Ça a été intéressant. Et puis, évidemment, le tout petit point négatif de la soirée est arrivé parce que... il y en a eu un autre avant sur le combat entre, la Mexicaine Godinez et Tabata Ricci, avec un juge qui a donné un 30-27, alors que les deux autres ont donné un 29-28 et un autre 29-28. Ça, c'était le point noir de la soirée. Un petit point noir. Allez, un petit point noir, parce qu'il y a toujours un de ces juges-là sur le pay-per-view. Maintenant, on reviendra au deuxième point noir qui était dans le combat entre Jiri et Poitain, mais combat intéressant quand même, hein. Premier round, c'est Jiri qui veut imposer sa stance, hein, vraiment, ce très très large et ce jab très bas, et rester un petit peu au milieu de la cage. C'est ça qu'il préférait pour aller pousser un Poitain, hein, prendre le centre de l'octagone. Approche vraiment à la Jiri, clairement, hein. Il va essayer d'aller chercher des angles très bizarres, hein, avec des bas hauts, hein, pas vraiment des angles sur les côtés, c'est plus de haut en bas pour aller chercher vraiment ce uppercut bizarre. Celui-là, il a essayé de l'envoyer plusieurs fois, et il l'a connecté, mais il n'y a pas vraiment la puissance, quoi, tu sais, parce qu'il n'y a pas tous les appuis qu'il faut pour aller chercher le knockout power dans ses uppercuts à chaque fois. C'est ça le problème un peu, je trouve, avec Jiri, c'est que même si c'est le fun, hein, la façon dont il strike, etc., et que oui, il a du power dans les mains, il est capable de finir, mais que c'est un punch sur deux, il n'y a aucune rotation, pas d'appui, pas de mouvement du corps, c'est un peu du déchet, au final, dans le striking, et c'est ça qui gêne un peu, mais c'est ça qui donne aussi l'aura exceptionnelle de Jiri, le fait que ce soit un peu bizarre et que ça parte dans tous les sens. Mais c'est Poitain qui passe les premiers low kicks et ça fait très mal. Alors lui, c'est vraiment la discipline sur une approche basique du striking face à un combattant qui, comme je vous le dis, hein, comme que Jiri, n'a pas forcément la stance la plus régulière. Donc c'est sûr que pour les low kicks, c'est du pain béni pour Poitain. Et dès les premières minutes, Jiri se fait déjà trébucher et puis doit changer de stance. Ça fait à peine 2 minutes qu'on est dans le premier round. Imaginez, on doit aller sur plusieurs rounds et tu te fais massacrer la jambe. Au bout de 2 minutes, c'est chaud pour Jiri, qui doit toujours chercher les angles. Par contre, Poitain ne se laisse pas pousser contre la grille. Ça, j'ai trouvé smart de la part du champion, ancien champion, nouveau champion, qui vraiment se déplace très bien latéralement et qui ne veut pas trop traîner contre la grille parce qu'il sait que ça peut aller à son désavantage aussi à Poitain. Alors, Jiri, d'une façon vraiment intelligente, part sur un single leg. J'ai trouvé ça smart parce qu'il n'arrivait pas forcément à coincer Poitain contre la grille pour le striking. Alors on va aller chercher la lutte. Il va chercher un single leg. Alors Poitain lui tente une guillotine et forcément à un moment donné ça paraissait qu'il l'avait plutôt pas mal deep, mais au final, faut pas que ça cache, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt du grappling quasi inexistant et de la lutte vraiment faible. Désolé de le dire, mais faible de Poitain, parce que ça lui arrive plus souvent, hein, de se faire mettre au sol. On l'a vu contre Izzy, il a du mal à défendre les takedowns, et là, Jiri l'a amené au sol sans trop de problèmes, même s'il s'est retrouvé dans une guillotine. Jiri se retrouve au-dessus de Poitain dans sa demi-garde, hein, il a passé son genou en plus, et ça on le voit aussi, hein, avec Poitain, c'est qu'il galère. Il galère, il essaye même pas de récupérer sa garde ou de récupérer une demi-garde, d'aller chercher un papillon, etc. Lui, c'est vraiment rapprocher son adversaire, casser sa posture, rapprocher son adversaire vers soi pour avoir le moins de dégâts possible et potentiellement se relever avec l'aide de la grille. Voilà, c'est très très simple et a vraiment pas avancé. Mais malgré tout, c'est Jiri qui envoie quelques coudes, etc. Un peu timide, hein, le Grand End Pound. On n'est pas avec le meilleur Grand End Pounder de la planète avec Jiri, clairement. Il se retrouve dans une bonne position, même si Poitain se relève à la fin. Il y a pas mal de gens sur Twitter qui donnaient le round à Jiri. Ça aurait pu donner le round à Poitain. Je veux dire, on avait un combat. On avait un combat à la fin du premier round et ça m'a plu parce que malgré tout, même si on adore tous, hein, les premiers rounds KO, etc., etc., on a quand même envie d'un combat sur ce combat-là. On veut plusieurs rounds, tu sais. Et puis, comme je vous l'ai dit, C'était dur d'imaginer que ça aille au-delà de, j'imagine, j'aurais dit trois rounds entre Jiří et Poatan, mais qu'on en ait un petit peu plus, quoi. Voilà, j'étais content à la fin de ce premier round parce que je vous dis, on a un combat. Deuxième round, c'est Jiří qui pousse contre la green, mais Poatan, encore une fois, circule bien. Je trouve que Jiří a un peu de mal à starter ses combinaisons hein, quand on est au milieu du round. Évidemment, ça, face à un striker comme Poatan, déjà, c'est pas forcément évident hein, dans une grande cage comme ça. Jiří, lui, est obligé de pousser, encore une fois. Il est plus à l'aise, hein, clairement, quand il assène Poatan contre la grille et que ça commence un petit peu à brawler et ça devient un peu plus à son avantage et Poatan en mange plusieurs. C'est dans ces moments-là où on voit que Jiří peut gagner contre les plus grands. Hein. C'est dans ces moments un peu foufou, un peu brawlesque. Mais évidemment, quand on repart au milieu, Poatan repart avec des low kicks et ça fait mal. Et puis c'est clair que si le combat avançait dans ce sens-là, là, que Jiří n'avait pas forcément la solution, ben, il se faisait massacrer les jambes. Jiří part au clinch contre la grille et ça finit en lutte. Jiří est encore un peu frustré quand on se retrouve au milieu. Il avance en ligne pour un 1-2. Et là, ben, évidemment, à un moment donné, il fallait que ça arrive. Le fameux crochet du gauche de Poatan drop Jiří. Hein, et Jiří, par contre, fait ce qu'il faut. Il va chercher le double leg, il va pousser Poatan contre la grille. Pour évidemment essayer de survivre parce que je pense que ça lui a fait mal et puis là c'est le moment un peu le mini point noir ou non le plus gros point noir clairement de la soirée parce qu'on aurait pu aller un peu plus loin je pense. Poatan qui il réfléchit pas, il envoie des gros coudes sur la tempe de Jiří pendant que Jiří parce que Jiří sa tête était un peu trop basse hein, elle était limite un peu au-dessus de ses hanches. Tu voudrais avoir ta tête, bon évidemment quand tu pars du bas c'est pas facile, mais tu voudrais avoir ta tête plus en dessous du menton, donc vers le torse de ton adversaire quand tu luttes contre la grille, pour justement aussi éviter ce genre de situation où Poatan a pu envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups peut-être sur Jiří. Et Jiří, ben, je pense qu'il a voulu abandonner sa position un peu plus haute et a voulu ben, un peu jump guard pour aller chercher peut-être un peu les jambes, parce que j'ai revu un gif en repeat, genre 150 fois peut-être, où... on voit le moment où Jiří se bascule vers l'arrière et puis ça pourrait paraître comme quoi que Jiří se fait dropper à cause des coudes. Alors certes, il abandonne parce que ça lui fait mal, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il se fasse dropper vraiment sur les coudes. On voit qu'il essaye d'attraper la jambe gauche de Poatan à un moment donné. Alors, tu sais, si on était en grappling, on pourrait passer sur un Hashigarami, hein, donc c'est-à-dire encercler les jambes de ton adversaire pour pouvoir essayer d'aller faire quelque chose. Après, Poatan, il aurait envoyé des patates derrière pareil. Mais bref, avec des si... on peut refaire le monde et plein de choses auraient pu arriver derrière. Hein. Et c'est pas forcément. Quand je dis plein de choses, c'est que le combat continue et que ce soit pas forcément terminé. C'est ça la frustration de ce plan séquence-là. L'arbitre a arrêté parce que évidemment ça paraissait que Jiří se fait dropper. Il va lutter pour essayer de survivre. Il se prend quelques coudes et il se bascule en arrière plutôt que de basculer en avant. Alors l'arbitre peut voir ça comme... comme un deuxième knockdown d'affilée et puis arrêter le combat parce qu'il s'est pris plusieurs coups. Ça peut être compréhensible du point de vue de l'arbitre à 100%. Maintenant, c'est sûr que quand on n'est pas dans l'instant sur notre canapé et qu'on revoit le ralenti, ben oui, Jiří était encore un peu là et il n'était pas non plus complètement assommé. Peut-être qu'il aurait pu être fini dans les deux secondes qui suivent hein, si ça continuait, mais moi, j'aurais bien voulu avoir ces 2, 3, 4 secondes de suite derrière, voire 5. 2, 3, 4, ça aurait pu changer potentiellement le combat et on n'aurait pas eu ce « et si, et si, et si ». Et c'est ça qui m'emmerde un peu. Et je pense que ça embêtait pas mal de fans aussi. Il y avait un peu de frustration sur ce « maybe early finish ». Voilà. C'est bête, hein. Mais bon, ça n'enlève rien à la victoire de Poatan, évidemment, hein, qui est un grand double champion. Le mec qui a fait, genre, je sais pas, 6 combats au UFC qui se retrouve avec 2 ceintures. C'est débile. Qui fait ça? Qui fait ça. Lui, pareil, hein, genre le charisme silencieux de Alex Pereira, excusez-moi, mais voilà, ce charisme-là est fantastique, quoi. Parce que le gars a knockdown easy, il a knockdown Strickland, knockdown Jiří. Voilà, et puis toutes les traînes qu'il y a sur les réseaux sociaux qui s'amusent un peu de lui, une fois de temps en temps, il les reprend et il en fait pas tout un pataquès, et puis ça marche, et puis il continue de faire vivre la hype, sa propre hype, sans vraiment pas faire grand-chose, sans parler, en étant la personne qu'il est, quoi. C'est fascinant, vraiment. Poatan, c'est fascinant comme personnage, comme combattant, comme athlète, comme personnalité. C'est fascinant, la chance qu'on a eu de le voir aussi. Il a, je sais pas, 36 ans maintenant, un petit peu plus peut-être. Mais à quel point il a réussi sa carrière en MMA, c'est incroyable. C'est peut-être l'homme qui a le plus réussi en MMA par rapport à la période dans laquelle il est resté, qui est très courte, par rapport au nombre de combats qu'il a eu à faire, par rapport aux combats qu'on lui a donnés, aux opportunités qu'on lui a données, je veux dire, c'est parfait, quoi. C'est parfait, il a perdu la ceinture contre Izzy, mais c'est pas grave. Ça alimente le narratif, etc. On est bon avec ça. On veut des histoires comme ça. Et le fait qu'il monte, et qu'il n'ait pas de problème. Bon, après, c'est les light heavyweight, je sais, il y a un peu la blague, la relation d'amour-haine avec cette catégorie qui est pas forcément, qui est clairement pas des plus compétitives, mais c'est quand même magique ce parcours de Poitain, je veux dire, c'est incroyable. Et puis, bon, Jiri aussi, son parcours est incroyable, hein, mais bon, c'est cette blessure à l'épaule a été vraiment conne, quoi. Ça a été dur. Après, est-ce qu'il s'en est bien remis? J'ai l'impression que oui. Donc, ça me rassure. Est-ce qu'on le reverra? Je pense que oui, il est encore jeune. Et puis, lui, évidemment, bon, Jiri, lui, il devient la parodie de lui-même. Plus on avance dans le temps, plus Jiri devient la parodie de lui-même. Et puis, ça m'a beaucoup amusé, ça m'abuse peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça marche encore quand il rentre dans la cage et qu'il fait tous ses gimmicks. Enfin, je veux dire, c'est le Steven Seagal de la grotte, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est intéressant. C'est intéressant dans la cage, mais en dehors de la cage, genre, je veux pas forcément entendre parler pendant 10 ans à chaque fois, mais que les deux soient rencontrés, là, genre le native de l'Amazon, l'autochtone de l'Amazon. Alex Pereira et Jiri, qui est un samouraï tchèque. Mettez les deux mots ensemble, quoi. Samouraï tchèque, ça ne veut rien dire. Mais on prend pareil, hein. Et ce combat, on l'a accueilli bras ouverts, et puis on en a eu un beau, mais on aurait voulu que ça aille un peu plus loin. Foutu light heavyweight. Il y a toujours quelque chose avec cette KT. Voilà. Mais, on a le retour des light heavyweight bientôt, hein, avec Blachowicz face à Dominique Reyes, qui sera à Toronto, hein, UFC Toronto. J'espère m'y rendre. Je pense que je vais y aller. C'est pas la carte qui rend le plus fou, mais j'espère que je vais m'y rendre. Et puis évidemment, j'essaierai de faire du beau contenu là-dessus, Belle Fight Week, etc. Ouais, je pense je vais essayer de vous préparer quelque chose de cool pour les gens qui savent pas vraiment et qui écoutent principalement les podcasts audio. Je commence à faire un peu de vidéos aussi, notamment avec des événements locaux. Et en parlant d'événements locaux, pour les gens de la région de Montréal, il y a un gros gala de kickboxing qui est organisé par Silvertooth Promotions, qui va se passer à l'Olympia quand même. C'est vraiment, vraiment malade, le dimanche 26 novembre en fin d'après-midi. Voilà, les tickets sont disponibles. Je vais couvrir l'événement. Je vais couvrir l'événement et puis je vais faire un petit peu de contenu et de promo là-dessus, je pense, comme j'ai pu le faire auparavant. Ça me plaît de faire du contenu local. Et puis, aujourd'hui, on parle de MMA, mais vous savez, si vous me suivez sur les réseaux ou alors sur le podcast, que je parle beaucoup de pieds-points aussi, notamment par l'intermédiaire de One Championship. Voilà, rendez-vous tous à l'Olympia le dimanche 26 novembre pour Canada versus Tunisie. Voilà, c'est beaucoup de combattants canadiens face à des combattants tunisiens. Ça va être du lourd, il y a des beaux noms. Et puis la scène montréalaise en kickboxing est en train d'exploser. Vraiment, c'est du régal ce que les promoteurs locaux nous organisent. Et puis on a aussi beaucoup de combattants qui donnent tout en amateur, qui sont très 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 sérieux. Le niveau monte énormément, il y a de très bons gyms partout dans la région de Montréal et au Québec, et puis des gars qui veulent passer pro, enfin je veux dire, il se passe de belles choses. Et si vous aimez le pied-point, ben et suivez-moi sur Instagram guillotine, @guillotine_podcast, et sur TikTok aussi @guillotine.podcast, YouTube aussi guillotine podcast. Voilà, suivez-moi sur les réseaux et merci à tous pour l'écoute de cet épisode. On se reparle bientôt, il y a des beaux combats, hein. UFC Austin, ça va être une très très belle carte. Je vais clairement faire un podcast audio là-dessus. Et puis il y a aussi UFC 296 qui s'en vient à Las Vegas avec Leon Edwards face à Colby Covington et d'autres beaux noms sur la carte. On se reparle très bientôt. Ciao!